Ce message a été enregistré en public au Centre évangélique de Saint-Nazaire. Prédicateur, pasteur Alain Ouvrard, toute l'équipe vous souhaite une bonne écoute.
Si vous voulez m'accompagner, on va faire une lecture dans l'Évangile de Jean. Alors, Évangile de Jean, chapitre 4. Et nous allons lire un simple petit paragraphe, hein, il est très court, mais il va nous situer dans notre réflexion ce soir. Alors, je rappelle Évangile de Jean, chapitre 4 et verset 27. Voilà, je lis ceci. Là-dessus arrivèrent ses disciples qui furent étonnés de ce qu'il parlait avec une femme. Toutefois, aucun ne dit « Que demandes-tu ?» ou « De quoi parles-tu avec elle ?» Alors la femme, ayant laissé sa cruche, s'en alla dans la ville et dit aux gens « Venez voir un homme qui m'a dit tout ce que j'ai fait, ne serait-ce point le Christ ?» Ils sortirent de la ville et ils vinrent vers lui. J'aimerais justement m'arrêter sur cette petite phrase, enfin, ces paroles que cette femme va prononcer à l'adresse de tous ses habitants de son village ou de sa ville. Elle dira ceci, « Venez voir un homme qui m'a dit tout ce que j'ai fait. » Alors, on a naturellement, on connaît l'histoire de la Samaritaine. Et on a dit beaucoup de choses, hein. Les prédicateurs depuis les temps immémoriaux ont prêché sur l'histoire de la Samaritaine. Alors, je ne vais pas reprendre son histoire, hein, c'est à lire justement et le remettre dans le véritable contexte. Hein. Mais il y a quelque chose que je voudrais souligner, c'est que il va y avoir là, pour cette personne, une révélation inattendue qui va faire irruption dans la vie de cette femme samaritaine, brutalement, soudainement, comme cela. Et en d'autres termes, si vous permettez que je traduise ou que j'amplifie un peu la pensée, quand elle dit « Venez voir un homme qui m'a dit tout ce que j'ai fait », on pourrait y ajouter « Mais venez voir un homme qui m'a dit tout ce que j'ai dit, ou tout ce que j'ai pensé. Un homme qui a révélé mes espérances et également mes déceptions de la vie. Un homme qui a déchiré le voile de mon existence. Il a pénétré jusque dans mon cœur. Il a fouillé dans mon âme. Et il m'a révélé, en d'autres termes, la femme que j'étais. Qui je suis en réalité. » Alors, c'est vrai que c'est assez troublant. Alors, on a l'habitude, c'est vrai, mais je voudrais remettre les choses en place, où des gens, parfois, avec gêne et embarras, nous disent, « Ben voilà, je suis allé voir telle ou telle personne à la réputation douteuse, alors on ne veut pas l'avouer, mais qui m'a dit, qui m'a révélé, ceci et cela. » Alors, vous avez tout de suite deviné de quelle inspiration pouvait être cela, parce que nous voyons que souvent les gens, quand sont allés voir des occultistes, ou des diseurs ou diseuses de bonne aventure, ou des gens qui prédisent l'avenir, des astrologues, etc., etc., souvent c'est avec une forme de gêne, ou alors ils sont complètement inconscients. C'est comme s'il y avait quelque chose qui les retenait en disant « Voilà, j'ai su des choses sur ma vie, mon histoire. On m'a révélé également mon avenir. » Mais c'est toujours avec un peu d'embarras parce que la conscience humaine est toujours un peu gênée, comme s'il y avait quelque chose venant de Dieu qui nous retenait ou qui retenait les gens de confesser ouvertement ce monde ténébreux, ce monde certes qui donne des révélations, qui est capable de proclamer des vérités. Mais vous avez vu, cette femme-là, la Samaritaine, elle le crie à tout le monde et elle n'a pas peur de le crier. Parce que celui qui lui a dit certaines choses, tout ce que j'ai fait, et elle a dû en faire, alors, elle le proclame, parce que autant peut-être la conscience de certaines personnes les retient, ils ne disent pas tout, en tous les cas ils ne disent pas souvent l'origine, ils n'osent pas confesser que c'est auprès d'un astrologue, d'un magicien, qu'ils sont allés voir dans un cabinet obscur et qui leur a révélé ceci et cela, qui a satisfait leur curiosité malsaine, en quelque sorte. Mais là, cette Samaritaine, elle va dire haut et fort, et pourtant, quelle réputation elle a? Comment va-t-elle être reçue? Est-ce qu'elle va être crue? Elle, la courtisane, la prostituée de la ville. Parce que c'est ça. Hein. Enfin, prostituée, en tous les cas, elle a eu 5 maris. Et Jésus nous révèle que c'était celui qu'elle avait, c'était pas encore son mari. Finira-t-elle par se marier? Toute la question est là. Mais c'est quand même assez intéressant de se pencher. Qu'est-ce que Jésus a pu lui dire? Il lui a dit ce que je viens de vous dire. Que c'est une femme, et je vais le dire en d'autres termes, on va laisser les maris de côté, ou les prétendants, ou les concubins, ou les tout ce que vous voudrez. Mais ce que Jésus lui a révélé, ce qui l'a touché, c'est pas parce que elle a vu une vie semi-immorale, ou amorale, si vous voulez. On va pas parler de ça. Ce que Jésus va lui révéler, ce qui la touche, ce qui la bouleverse, ce qui déchire son âme, et ce qui va faire d'elle une femme nouvelle, c'est que c'est une malheureuse. Une femme qui est en quête d'affection, une femme qui est en quête d'amour, une femme qui est en quête de, quelque part, de cet idéal de bonheur humain, et elle croit que ce bonheur humain, il est là. Et elle va d'homme en homme, et elle s'aperçoit que elle le garde pour elle, hein, tout ça. Oh, tout le monde le sait. Tout le monde sait qu'elle va de l'un à l'autre. Ça, c'est la face découverte de l'iceberg. Mais ce que les autres ne savent pas, c'est qu'elle est très malheureuse. Et parce qu'elle est très malheureuse, parce qu'elle est dans un état de misère morale, de misère spirituelle, nous pourrions dire, alors, ça l'amène finalement à aller de ci et de là. Et elle se dit, j'en trouverai bien un jour ce un qui va m'apporter ce que j'attends. Mais Jésus voit au-delà, il va regarder plus loin. Il ne va pas la condamner, vous avez remarqué? Parce que c'est ça ce qui est important. C'est la non-condamnation dans des circonstances qui peuvent faire bondir jusqu'au plafond les autres, où Jésus comprend les racines du mal, où il est en train de détecter, il va traiter le problème de cette femme, comme il traitera le problème de la femme adultère, toujours dans le même évangile, au chapitre 10, me semble-t-il, de l'évangile de Jean. Mais au lieu d'y apporter, une coupe franche, au lieu d'y apporter un jugement irrémédiable et une condamnation qui va laisser cette femme encore 10 fois plus malheureuse, il va véritablement mettre 2 principes en valeur. L'idéal de la vie et l'idéal du ciel, l'idéal de l'évangile, l'idéal de la foi, qui fait que quand les deux sont rétablis, on est véritablement heureux. C'est ça la question. Et le problème de ce déséquilibre dans notre monde, le problème du péché même dans le monde, le péché qui entraîne encore à de plus grands péchés, parce qu'on croit toujours qu'avec le péché, avec le mal, on va y arriver. Mais Jésus est un expert en la matière, vous comprenez, si je peux m'exprimer ainsi, parce qu'il est médecin. Il n'est pas médecin des corps, il peut l'être aussi, on le voit, guérir le paralytique, ouvrir les yeux des aveugles, et puis faire entendre le sourd. Mais il est le grand médecin des âmes, et il sait très bien approprier le véritable remède à chacun. Et voilà que elle va dire, parce que c'est ça ce qu'elle retient. Elle aurait pu dire autre chose aux gens du village. Moi, la prostituée notoire, moi, ceci, cela que vous connaissez bien, vous savez bien tout ce que j'ai fait. Elle va pas en parler de cela. Elle va seulement parler de Jésus, parce que c'est lui qui compte dans cette affaire. Et elle va lui dire, mais un homme, si vous saviez, cet homme. Vous allez peut-être pas l'aimer parce que c'est un juif. Et nous, chez les Samaritains, on n'aime pas les juifs. Pas d'aujourd'hui, hein. C'est un homme. Et vous savez, c'est pas qu'il a fait quelque chose pour moi, mais c'est qu'il m'a dit quelque chose qui a fait en moi, qu'en un instant, je ne suis plus la même personne, je ne suis plus la même femme. Ça, c'est la parole qui agit. Je pense que cette Samaritaine, elle avait autant de besoin de guérison que le paralytique, que l'aveugle, que le boiteux, que tous ces gens qui étaient tourmentés dans leur corps, comme cette pauvre femme qui était courbée depuis 18 ans et qui ne pouvait pas se relever. La même chose. C'était pas sur le plan physique, mais c'était sur le plan d'une courbure de l'âme et d'une déviation du cœur, de l'affect, du sentiment. Alors peut-être qu'on pourrait analyser les choses simplement. Pourquoi cette femme, cette jeune femme, parce que je pense qu'elle était encore jeune, en était-elle arrivée à cela? Mais si on regarde dans la vie des gens, et Jésus le savait, c'est pour ça qu'il n'a pas été dur, c'est pour ça qu'il n'a pas été juge, c'est pour ça qu'il ne l'a pas renvoyée là, eh bien, d'où elle venait. Il a même une très longue conversation avec elle. Ce sont des entretiens qui sont les plus longs, où nous voyons Jésus parler, d'abord avec une femme, parce que ça se faisait pas à l'époque sur la place publique, et en plus, il va véritablement faire tout un discours là avec elle. Ça prend un chapitre entier, hein, de l'évangile de Jean. Alors, Jésus sait, et c'est là où je voudrais marquer le fait, je voudrais vous parler de ce soir que Jésus sait tout dans notre vie. Il m'a dit tout ce que j'ai fait. Jésus a été ainsi avec elle. Il aurait pu avoir de la répugnance, comme avec cette femme qui vient dans la maison de Simon le pharisien et qui va dénouer ses cheveux, c'est une prostituée notoire elle aussi, hein, et qui va baigner de larmes les pieds de Jésus et les essuyer avec ses cheveux. Imaginez-vous le scandale. Surtout chez un pharisien. Il devait être fou, lui, hein, Simon, à ce moment-là. Mais Jésus savait. Qu'est-ce qui l'avait amené là, cette jeune femme? Peut-être avait-elle reçu des violences ou des sévices dans son enfance? Eh oui. Peut-être avait-elle vécu des choses qui avaient inexorablement conduit cette pauvre fille à devenir une femme publique, une fille de joie, je ne sais pas. Vous savez, cette connaissance de Dieu et cette connaissance que Jésus a de toute chose dans la vie, ça s'appelle de l'omniscience, c'est-à-dire la connaissance de tout. Et à partir du moment où nous pouvons venir écouter l'évangile, où nous pouvons nous présenter devant Dieu, eh bien ça fait tomber, finalement, pour ceux qui font confiance, ça fait tomber nos préjugés à l'égard de Dieu, et ça fait tomber nos craintes et nos peurs. En sachant que nous sommes ce que nous sommes, et Jésus est venu appeler des hommes perdus. Il n'est pas venu appeler des gens justes, des gens qui se disent saints et qui se disent au-dessus du panier, on pourrait dire. Mais il est venu appeler des gens qui sont bas tombés. Et à partir du moment où on sait qu'il sait tout, on va quand même pas faire Adam, comme Adam, que quand Dieu l'a appelé dans le jardin d'Éden, où es-tu? Où te caches-tu? Ben lui, il a eu peur et il s'est caché encore davantage. Et ça, c'est la réflexion de millions et de millions de gens au contact de Dieu, au contact de Jésus, au contact de sa parole, au contact de l'interpellation du Saint-Esprit. On se cache. Eh bien, on vient tel que l'on est. Dans le courant de cette semaine, qui n'a pas péché? Vous viendrez me voir, on en parlera. Alors, si on devait fuir parce qu'on a fait un péché, et je crois qu'il faut le mettre au pluriel quand même, alors à ce moment-là, bon, il y a longtemps qu'on aurait démissionné, c'est parce qu'on sait que le Seigneur sait tout de notre vie. Il sait le bien que l'on fait et il connaît le mal que l'on fait aussi. Et on peut encore s'approcher de lui. Et moi, je voudrais le dire parce que ça, c'est le message de la bonne nouvelle. Pour inciter les hommes à dire, mais ne craignez point. Alors, si on craint et si on ne veut pas s'approcher dans l'état dans lequel nous sommes, c'est que nous sommes comme les pharisiens. Nous n'avons pas besoin de Dieu. Nous sommes mieux que Dieu. Nos yeux sont trop purs pour voir le mal, comme dit le prophète Habacuc. Alors à ce moment-là, bon, on n'a pas besoin de Dieu et je dirais qu'il n'y a rien à faire avec nous. Hein. On est vraiment au-dessus de la mêlée. Hein. Mais pourtant, c'est le contraire qui s'est passé. Jésus est venu vers des gens qui ont certainement une conscience chargée, qui sont culpabilisés à mort, à tort ou à raison. Et quand cette femme dit ceci à cette population qui la regarde certainement avec un épouvantable étonnement, elle, la prostituée, qui nous dit qu'elle a rencontré un homme. Bah oui, c'est pas le premier, hein. Mais là, c'était pas la même chose. Certainement pas sur le même registre. Il m'a dit, parce qu'il m'a dit. J'ai rencontré un homme parce qu'il m'a dit. Et moi, je crois en lui. Tout ce qu'il a fait. Vous avez vu ce qui est dit, écrit un petit peu plus loin? Venez voir un homme. C'est-à-dire qu'elle invite les autres à venir voir ce qu'elle a vu elle-même. Et à entendre ce qu'elle a entendu. Et à recevoir ce qu'elle a reçu. Venez voir un homme, il m'a dit, etc. Et elle termine la phrase. Ne serait-ce point le Christ? Pour une Samaritaine, c'est bien quand même. Alors que les Juifs d'Israël avaient un mal fou à reconnaître en Jésus le Messie, loin de Dieu et le Rédempteur. Difficile. Hein. Alors, cette révélation, elle lui tombe dessus du jour au lendemain, comme ça, comme c'est arrivé. Hein. On a eu quelquefois des écoutes de témoignages où les gens m'ont dit et nous disent, voilà, je ne sais pas ce qui s'est passé, mais un jour j'ai rencontré le Seigneur et il m'a convaincu d'une chose. C'était immédiat. C'est comme Paul, hein, sur le chemin de Damas. Alors c'est peut-être beaucoup plus rare, mais ça existe aussi. Ça, c'est quelque chose, hein. On l'a entendu dans le dernier baptême avec notre amie Karine, qui là, eh bien, en un seul moment, elle a été convaincue. Voilà, que le Seigneur l'appelait, et ceci et cela. Alors, il lui a dit ce qu'elle était, et elle l'a accepté. Elle l'a d'autant accepté, où elle aurait pu peut-être dire, maintenant je dis plus rien, parce que j'en ai honte. Ouais, mais le Seigneur est venu pour balayer notre honte et nous donner de la dignité. Et nous remettre en honneur, déjà à nos propres yeux. Alors, il m'a dit ce que je suis. J'appuie notre méditation ce soir sur ce que j'ai dit, le savoir de Jésus. Il sait tout de notre vie. Alors, même quand on fait des petites cachotteries, même quand on se met dans un placard et qu'on ferme la porte et qu'on est dans l'obscurité, il nous voit encore. Enfin, je ne sais pas si c'est votre réflexion, voilà. Même quand on se déguise en disant « Seigneur, je vais mettre un masque, tu me reconnaîtras pas. » Alors vous pouvez bien vous farder, vous maquiller, faire tout ce que vous voulez, hein, vous déguiser, prendre toutes les postures et tous les costumes que vous voudrez. Lui, il regarde pas aux apparences, il regarde au-dedans. Et c'est bien la différence. Et quand il regarde au-dedans, eh bien, on n'a pas de possibilité de fuir. « Seigneur, je viens à toi comme nous le chantons. Oui, Seigneur, je viens à toi tel que je suis. Tel que je suis, je viens à toi. » C'est comme ça qu'on avance. Mais tant qu'on a des faux fuyants, on peut avoir peur de Dieu. On peut avoir peur aussi de nos semblables, des hommes. Et ça nous joue des mauvais tours d'avoir peur des hommes aussi. Alors que la Bible nous dit de ne pas avoir peur des hommes. C'est une attitude de vérité que nous devons avoir. Et on fait des bêtises. On commet des péchés. On a des paroles quelquefois qui vont au-delà de notre pensée. On peut avoir des gestes même quelquefois malencontreux, de la violence et toutes sortes de choses. On peut piquer des crises de jalousie, vous savez, avec tout ce que cela va avec, hein, tout ce que cela entraîne. Il faut dire, bien Seigneur, tu vois, je suis comme ça. Et le Seigneur, vous savez ce qu'il va nous répondre ? Mais je te connais. Il suffit de peu de choses pour allumer la mèche et pour que tu t'enflammes. Comprenez ? Eh oui. Et c'est bien parce qu'il nous connaît qu'il veut nous sauver. Qu'il veut nous sauver de nous-mêmes, qu'il veut nous sauver de ce que nous sommes, qu'il veut nous sauver et nous donner véritablement d'être clean devant lui, tout simplement. Seigneur, c'est pas facile. Hein. Alors, le savoir de Jésus-Christ. Et vous savez, on ne s'y trompe pas parce que la Bible nous en parle. Dans Jean chapitre 2, vous savez, dans le chapitre précédent, il est dit cette parole. Je vais le lire, hein, simplement, vous pouvez suivre. Il nous est dit... Pendant que Jésus était à Jérusalem à la fête de Pâques, plusieurs crurent en son nom, voyant les miracles qu'il faisait. Ils croyaient non pas pour ce que Jésus disait, mais ils croyaient pour ce qu'ils voyaient. Et ça, c'est une fausse foi. La vraie foi, elle s'appuie sur ce que Jésus nous dit, et non pas sur ce qu'il fait. La vraie foi viendra et produira ce que nous verrons ensuite. Ça viendra étayer, ça sera... le prix de notre expérience. Mais ça commence toujours par ce que Jésus nous dit. Et vous avez remarqué avec la Samaritaine, cette femme va croire parce que Jésus lui a dit. Il n'a pas encore fait. Il fera de grandes choses certainement dans sa vie par la suite. Et elle a cru à cette parole. Et si nous sommes là ce soir, si vous êtes venus pour que je vous fasse une démonstration miraculeuse, vous n'allez pas être déçus. Hein. Mais moi, ma vocation, mon appel, c'est de vous parler de Jésus et surtout laisser parler Jésus à travers ma bouche. En restant sur sa parole. Alors, voyant les miracles qu'il faisait, mais écoutez bien. Mais Jésus ne se fiait point à eux, parce qu'il les connaissait tous, et parce qu'il n'avait pas besoin qu'on lui rende de témoignage d'aucun homme, car il savait lui-même ce qui est dans l'homme. Eh oui, les épouvantables cache-cache, où finalement on ne se ment qu'à soi-même, on peut mentir aux autres, mais on ne mentira jamais au Seigneur. Il ne se fiait pas à eux. Parce que les gens, là, de cette histoire, c'était des gens qui étaient des gens sensuels, des gens charnels. Ils voulaient voir, ils voulaient sentir, ils voulaient écouter, ils voulaient ceci et cela, et puis après de dire, eh bien voilà, je crois parce que j'ai ressenti quelque chose. Eh bien, il va falloir que nous comprenions que ce n'est pas le ressenti qui va nous amener à la foi. C'est une conviction profonde, conviction du cœur, conviction morale du cœur profonde qui va véritablement nous amener à Jésus. Et là, c'est à ce moment-là qu'il va nous dire des choses et qu'il va faire des choses pour nous. Alors, ça c'est la connaissance qu'il a des hommes. Et puis, je voudrais vous dire aussi que Jésus a la connaissance divine. Il connaît bien les hommes, mais cette connaissance, pour connaître les hommes, il le connaît parce qu'il est Dieu. Et il faut l'affirmer. Et il est Dieu sur toute chose. C'est pourquoi nous avons ce très beau texte dans, vous le reconnaîtrez, parce que on l'a souvent utilisé. C'est dans le psaume 139. On va le lire un peu si vous voulez, parce que ça peut étayer notre réflexion. Et vous savez ce que je poursuis ce soir, c'est que vous soyez convaincus, et le thème de la prédication ce soir, c'est que vous soyez convaincus absolument que Dieu sait tout. Voilà, c'est ça le but, Et à partir du moment où vous saurez que Dieu sait tout, vous n'avez plus rien à lui cacher, alors venez à lui librement. Il n'est pas venu pour vous juger, il est venu pour vous sauver. Alors, on va lire ça. C'est David qui écrit ce fameux poème, le psaume 139. Et lui, il a bien compris, David. Et pourtant, David, c'était un homme dont le cœur était attaché à Dieu. C'était un homme qui avait quand même beaucoup de rectitude et de droiture. Mais ça lui est arrivé de faire les bêtises. Comme ça peut arriver à chacun. Ne jugeons pas. Et qu'est-ce qu'il dit? Vous savez, si David a été David que nous connaissons, c'est le grand homme de Dieu, l'ami de Dieu, l'homme de foi, le plus grand roi d'Israël, c'est parce qu'il savait que Dieu savait tout. Écoutez. Éternel, tu me sondes et tu me connais. Ça commence bien, Tu sais quand je m'assieds et quand je me lève. J'allais dire, est-ce que Seigneur, c'est vraiment nécessaire? Eh oui, mais Dieu est Dieu. Voilà. Alors, si c'est les détails qui vous choquent, c'est pour vous montrer la précision de la présence de Dieu et de la connaissance qu'il peut avoir. Parce que s'asseoir, quand je me lève le matin, vous n'aurez pas la pensée demain matin en disant, « Seigneur, dis donc, t'as remarqué l'heure que je me suis levé, Je me suis levé pour prier, Alors attention, tu en tiens compte dans la journée. » Bon, mais c'est la précision qui est importante. « Tu pénètres de loin ma pensée. » Vous vous rendez compte, c'est quelque chose de savoir que ce que nous allons penser dans 5 minutes, le Seigneur le sait déjà. Alors si ce sont des bonnes pensées, ça va. Mais Seigneur, si c'est le contraire, aide-moi à progresser dans de bonnes pensées. Tu sais quand je marche et quand je me couche. C'est un peu le pendant de ce que nous avons lu tout à l'heure. Et tu pénètres toutes mes voies. Non seulement ce que je pense, de jour, de nuit. Non seulement ce que je fais, non seulement ce que je dis. Non seulement ce que je comment pourrait-on dire? Ce que je vis. Mais tu pénètres toutes mes voies. C'est-à-dire que tu sais, dans les voies qui vont me conduire à toi, les voies que tu as mis, que je veux suivre pour faire ta volonté, eh bien tu sais où elles vont aboutir, et tu sais si elles vont réussir. Et vous savez, ça change la nature de notre prière, où nous sommes tellement hésités en disant « Seigneur, fais réussir ceci et cela, mais le Seigneur sait très bien. » Si vous êtes convaincu qu'il est là, que sa présence est là autour de vous, mais il va vous faire réussir, puisque c'est lui qui a mis ses pensées, ses bonnes pensées dans votre cœur, et ses voies à accomplir, c'est lui qui les a mis. Vous n'avez pas à vous inquiéter. On prie et on s'inquiète. On prie et on dit pourvu que ça marche. Vous lui avez demandé que ça marche, ça va marcher. J'ai toujours été particulièrement interpellé lorsque nous avons des projets, pour moi et puis pour l'œuvre, de dire, mais Seigneur, ça ne peut être que ce que tu veux, toi. C'est la différence, c'est ma souplesse. Si je suis raide comme un bout de bois, excusez-moi l'expression, et que là, je ne m'incline pas, je ne cède pas en pensant que je suis toujours, mes pensées sont en contradiction, mes sentiments en contradiction avec Dieu. Mais qu'est-ce qu'il peut faire avec moi? Mais si je m'en remets à lui, si je m'abandonne entre ses mains, il pénètre mes pensées et il me fait réussir en tout. C'est beaucoup plus simple que cela, Mais qu'est-ce qu'on est compliqué, non? Non? C'est vrai? Dites-nous, dites oui ou dites non, mais au moins dites-moi quelque chose. Parce que le Seigneur sait que vous hésitez, c'est pour ça. Bon, alors, on continue. « Car la parole n'est pas sur ma langue, que déjà, Éternel, tu la connais entièrement. » Oh là là. Oh là là, c'est terrible, ça. La langue. Un petit feu qui peut embraser une grande forêt. Oh, c'est terrible, Pire qu'une inondation. L'inondation, c'est le contraire du feu, Ça dévaste tout sur son passage. Vous savez, il y a un proverbe dans la vie qui nous dit « Il faut tourner sa langue 7 fois dans sa bouche ». Ben, si. Enfin, je ne sais pas comment ça peut se faire, mais bon, ça prend du temps. Ben, il y aurait peut-être moins de bêtises qui seraient dites, hein, c'est vrai. Hein. Il y aurait des coquilles qui n'arriveraient pas. Hein. Alors, tu le dis ou tu le dis pas ? Je tourne ma langue 7 fois dans ma bouche. Voilà. Alors, la parole n'est pas sur ma langue que déjà tu la connais entièrement. Seigneur, évite-moi de déraper. Hein. Parce que vous savez, c'est dans la précipitation qu'on dérape. Hein. Très souvent. Tu m'entoures par derrière et par devant et tu mets ta main sur moi. C'est pas la proximité de Dieu. C'est pas véritablement cette présence extraordinaire que nous avons. Tu es une science aussi merveilleuse est au-dessus de ma portée. Elle est trop élevée pour que je puisse la saisir. Ben, c'est vrai, hein, Seigneur. Puis il y a le reste du psaume, vous pourrez le lire chez vous. C'est intéressant, ça. Une science aussi merveilleuse, mais qui peut comprendre la grandeur de Dieu? Qui peut comprendre sa magnificence? Qui peut comprendre la connaissance qu'il a de toutes choses? Ben, c'est difficile, mais justement, c'est à cela qu'il tente de nous amener les uns et les autres dans une connaissance spirituelle. Je dirais que la connaissance des choses du monde, de la vie, des sciences, etc. ne nuit pas. Être intelligent, c'est pas une tare, au contraire. Mais une chose qui est certaine, et c'est tout le reste du Nouveau Testament, à partir du livre des Actes, qu'on appelle les Épîtres, pour nous amener, et particulièrement des livres extraordinaires comme Éphésiens, pour nous montrer qu'il y a une autre sagesse, une autre dimension. Une autre dimension dans la foi, une autre dimension dans l'amour. On en a parlé dernièrement. Voilà. Pour nous dire que Jésus a la connaissance divine. Et si nous voulons lui faire confiance, eh bien, automatiquement, nous grandirons, nous nous développerons. Et puis, pour aller encore un petit peu plus loin dans notre sujet, que Dieu sait tout, que Dieu connaît tout, je voudrais vous parler d'un homme qui s'appelle Nathanaël. Ça vous dit quelque chose, Nathanaël ? Ouais ? Alors, c'est une belle histoire de connaissance et de révélation de la volonté de Dieu à un homme. Alors, la particularité de Nathanaël, c'est un juif. Il a des préjugés, comme on en peut en avoir. Et voilà, un jour, on vient lui rendre témoignage, hein, de ses amis, de ses meilleurs amis, vient le voir et lui dit, tu sais, hein, j'ai fait une découverte dans ma vie, cet ami il s'appelle Philippe, et il vient le voir et lui dit, j'ai fait une découverte formidable. J'ai rencontré un homme, comme la Samaritaine, un homme qui m'a parlé du royaume, qui m'a parlé de l'espérance et de la consolation d'Israël. Alors, viens et vois. Alors, on va lire ça. Donc, dans Jean, chapitre 1er, au verset 45, on va lire ce qui nous est dit. C'est une belle histoire parce que on peut être quelquefois douteur, on peut avoir des préjugés, on peut aller en marche arrière par rapport à la foi, par rapport au christianisme, par rapport à l'évangile. Mais il suffit d'une chose, que Jésus vienne nous dire un mot et tout change. Vous, le Seigneur, vous a déjà parlé, non? Oui. On serait pas là aujourd'hui s'il nous avait pas parlé, il nous a pas parlé pour nous dire des banalités, il nous a parlé pour nous parler véritablement de notre salut et de notre besoin, quelquefois inconscient, qui était le nôtre et qui l'a révélé comme un besoin impérieux pour pouvoir avoir la vie éternelle. Alors écoutez, Jean, chapitre 1er et verset 45. Philippe rencontra Nathanaël, c'est son ami, hein, et il lui a dit, là encore, hein, la foi passe par une déclaration, par un témoignage. Il dit ceci, « Nous avons trouvé celui de qui Moïse a écrit dans la loi et dont les prophètes ont parlé, Jésus de Nazareth, fils de Joseph. » Nathanaël lui répondit, « Peut-il venir de Nazareth quelque chose de bon ?» Philippe lui répondit, « Viens et vois. » Jésus, voyant venir à lui Nathanaël, dit de lui, « Voici vraiment un Israélite dans lequel il n'y a point de fraude. » D'où me connais-tu, lui dit Nathanaël, Jésus lui répondit, avant que Philippe t'appelle, quand tu étais sous le figuier, je t'ai vu. Nathanaël répondit et lui dit, Rabbi, tu es le Fils de Dieu, tu es le roi d'Israël. Jésus lui répondit, parce que je t'ai dit que je t'ai vu sous le figuier, tu crois? Tu verras désormais maintenant de plus grandes choses que celles-ci. Et il lui dit, en vérité, vous verrez désormais le ciel ouvert et les anges de Dieu monter et descendre au-dessus du Fils de l'homme. Une belle histoire, petite histoire, elle est consignée uniquement dans l'évangile de Jean, mais c'est l'histoire de milliers et de millions de personnes, l'histoire de Nathanaël. Sur le témoignage d'un ami, sur le témoignage de quelqu'un qui a déjà fait une expérience. C'est important, hein, d'être entouré de gens qui ont fait une expérience et qui vous parlent de Jésus, qui vont pas vous parler d'une religion, qui vont pas vous parler du centre évangélique, qui vont même pas vous parler du prédicateur, hein, attitré au centre évangélique, ça n'a pas d'importance. Mais ils vous ont parlé de Jésus. Alors, Philippe, eh bien, il fait la même chose. Et il dira pour témoigner à son ami Nathanaël, qui est un juif pieux aussi, et il lui dira, mais il va le brancher un petit peu sur l'histoire. Il va lui dire, mais tu sais, nous avons trouvé. Et il va pas laisser d'hypothèse ou de supposition, est-ce que c'est lui? Il dira, mais nous avons trouvé. C'est une conviction de cœur, hein. Celui que Moïse a écrit dans la loi et dont les prophètes ont parlé, ça veut dire tout simplement que ce que Moïse a dit des siècles et des siècles auparavant, tous les grands prophètes de la foi, tous les grands prophètes d'Israël à travers les siècles qui se sont succédés, ont parlé de cette espérance d'un homme qui viendrait, qui ne serait pas seulement un homme, mais qui serait Dieu venu en homme pour apporter le salut aux hommes, et dont déjà, eh bien, les prédictions, les prophéties ont traversé l'histoire, et c'est lui. Il parle avec conviction, Philippe. C'est bien lui. Il n'y en a pas d'autre. Parce que Nathanaël, il a besoin, véritablement, de savoir en qui il croit. Et si ça correspond à sa foi, si ça correspond à sa foi d'Israélite, eh bien, il y a beaucoup plus de chances, eh bien, qu'il puisse véritablement, eh bien, croire en Jésus. Mais il ne s'arrête pas là, c'est pas seulement l'histoire. Il dira à cet homme que nous avons rencontré, dont les prophètes ont parlé, il s'appelle Jésus. Il habite à Nazareth. Et son père, eh bien, c'est Joseph. Alors, quand on voit que, tout simplement, c'était deux villages l'un à côté de l'autre, Nathanaël était un homme qui habitait justement à proximité de Nazareth. Bon, à ce temps-là, on n'avait peut-être pas le téléphone, mais on se connaissait tous, hein. Parce que les gens n'allaient pas très loin, hein, le village à côté, et puis ceci et cela. Et là, c'est quelque chose qui choque un petit peu, qui va choquer Nathanaël, parce que, d'accord pour Moïse, d'accord pour les prophètes, tu crois qu'il est celui qui était destiné au salut d'Israël et à la consolation? Mais quand il lui dit, mais de Nazareth, Nathanaël lui dit, peut-il venir de Nazareth quelque chose de bon? Eh oui, là on redescend aux connaissances terrestres. Avant, c'était spirituel, Moïse, les prophètes. Mais là, on dit, ah oui, tu sais, c'est du village voisin, le village de Nazareth. Tu le connais, tu y as été des dizaines et des centaines de fois, naturellement. Tu connais bien le charpentier, il s'appelle Joseph. Ah ouais, je me souviens de cette histoire. Marie qui a eu un enfant alors qu'il n'était pas marié. Bah oui, vous vous rendez compte, hein. Quand on veut pas croire, on trouve tout, hein. Remarquez, c'était vrai quand même. C'était vrai quand même. Mais il dira, mais peut-il venir de Nazareth quelque chose de bon? Eh bien, justement, c'est là où notre brave Nathanaël, bourré de préjugés, va choper, parce que le Seigneur connaît son cœur. Et à ceux qui viennent nous rejoindre et qui ont des préjugés sur ceci et cela, le Seigneur est capable de nous en débarrasser de nos préjugés et de nous convaincre. Il y en avait un qui a des gros préjugés, c'était l'apôtre Paul. Waouh ! Terrible, hein, l'apôtre Paul qui, lui, a été jusqu'au meurtre, ou tout simplement à la dénonciation des chrétiens pour qu'ils soient bien livrés aux sacrificateurs de Jérusalem pour être mis en prison et mis à mort. Hein. Lui, il en avait des préjugés. Hein. Ben vous savez, ces préjugés, vous savez où ils sont tombés? Sous les sabots de son cheval. Parce qu'il est dégringolé avec. Et quand il s'est relevé, il n'avait plus de préjugés. Il a confessé que Jésus était le Fils de Dieu. C'est ça la différence. Hein. Alors, quelque chose de bon, vous savez, être chrétien, si on n'a pas de conviction... C'est pas ça. Mais être chrétien, devenir chrétien, avoir des convictions, eh bien on ira jusqu'au bout et on sera les plus heureux des hommes. Parce qu'il faut être, convaincu quand on est chrétien. C'est pas une confession religieuse. C'est pas de dire, eh bien moi je vais de temps en temps au culte, je vais à la messe et ceci et cela. Mais ça n'a pas d'importance. Ça n'a même pas de sens. Tous les gens du Nouveau Testament, les gens de l'Église primitive, c'était des gens qui avaient des convictions. Pourquoi? Parce qu'ils avaient été guéris, parce qu'ils avaient été sauvés, ils avaient vu des choses et ils avaient vécu des choses. Et ils ont été convaincus que Dieu était auprès d'eux, il était en eux. La présence de Dieu, il savait tout. Alors, quelque chose de bon. Philippe lui répondit, parce que vous savez, quand on a affaire à des gens qui ont des préjugés, faut pas leur faire de grands discours, c'est pas la peine de leur faire du blablabla, c'est pas la peine. Deux mots ont suffi pour Nathanaël. Viens et vois. Personne t'empêche de venir. Et ouvre tes yeux et tu verras ce que je t'ai dit de cet homme, Jésus de Nazareth. Eh bien, tu verras que la conviction qui est au fond de mon cœur, eh bien, tu vas te convaincre toi-même quand tu vas le voir. Et qu'est-ce qui s'est passé? Jésus va pas lui faire un miracle à Nathanaël. Je te fais un miracle pour que tu croies. Pas du tout. Il va lui révéler quelque chose. C'est la même chose que pour la Samaritaine. Jésus, voyant venir à lui Nathanaël, dit de lui, avant que Nathanaël soit auprès de Jésus, pour montrer qu'on peut avoir des préjugés, mais qu'on peut avoir un cœur droit, et que les préjugés vont disparaître. Il dira, voici vraiment un Israélite dans le cœur, dans lequel il n'y a point de fraude. Le Seigneur nous connaît. Le cœur est tortueux et méchant par-dessous tout, nous dit le livre du prophète Jérémie. C'est Dieu qui dit, parce qu'il connaît nos cœurs. Mais quand il y a un homme ou une femme qui a un cœur droit, qui est véritablement avec une honnêteté morale intellectuelle, mais alors à ce moment-là, le Seigneur va nous révéler, il va nous donner tout ce dont nous avons besoin. Si tu me cherches de tout ton cœur, de toute ton âme, de toute ta pensée, de toute ta force, je me laisserai trouver par toi. Et Nathanaël était peut-être un Israélite qui avait des préjugés, mais le Seigneur a nettoyé tout ça. Et comment? Parce que Nathanaël va lui poser les questions. Quand il va s'approcher, il va dire, mais d'où est-ce que tu me conviens? Pourquoi tu dis que j'ai pas de fraude? Pourquoi tu dis que mon cœur est droit? Alors, d'où me connais-tu? Jésus lui répondit, avant que Philippe t'appelle, donc avant toute chose, avant que les choses se fassent, avant que tu entendes le témoignage. Quand tu étais sous le figuier, je t'ai vu. Les commentateurs nous disent sur cette petite phrase que Nathanaël, avant que Philippe le rencontre, lui parle, il était assis sur le bord du chemin sous un figuier pour se reposer à l'ombre. Et il était certainement dans ses pensées, toutes sortes de choses qui étaient le propre de sa personnalité ou de ce que nous pouvons en faire. Quelquefois, on réfléchit, on est là. Et c'est là ce qui va, c'est une banalité, hein. C'est une banalité d'être assis en sous un figuier et puis de penser. Après, Philippe est venu. Après, Philippe lui a dit. Et il l'a invité, viens et vois. Là, il est en train de constater. Quand tu étais sous le figuier, je t'ai vu. C'est pas que Jésus l'a vu physiquement. Mais il l'avait vu, il savait qu'il y avait un homme qui quelque part était en recherche sans savoir ce qu'il cherchait. Un homme qui était aux prises avec un combat intérieur, avec des préjugés, avec toutes sortes de choses. Et Jésus lui dit, mais je t'ai vu. Nathanaël lui répondit, lui dit, mais Rabbi, tu es le Fils de Dieu, tu es le roi d'Israël. Le Seigneur, pour nous convaincre de ce qu'il est, a fait exactement avec nous, ou avec moi, comme avec Nathanaël. Il a été au fond de mon cœur, il a sorti des choses qui étaient enfouies, dont je méconnaissais peut-être même l'existence. Mais à ce moment-là, eh bien, j'étais convaincu qu'il y avait quelque chose de plus grand que moi et que le ciel n'était pas vide, qu'il y avait un Dieu qui portait ses regards sur ma vie et qui avait quelque chose à me dire et quelque chose à faire pour moi, voire même avec moi, comme avec vous d'ailleurs. Il n'y a pas de différence. Rabbi, tu es le Fils de Dieu, tu es le roi d'Israël. Lui, l'Israélite, va voir dans le descendant de David, on l'a lu tout à l'heure, eh bien Jésus le Messie. Et il verra le Fils de Dieu plus encore. Il y a la dimension terrestre, le roi d'Israël, et également la dimension spirituelle, Fils de Dieu. Et Jésus va lui répondre, mais parce que je t'ai dit que je t'ai vu sous le figuier, tu crois? Pourtant c'est une banalité, hein. Il y a des gens qui cherchent des miracles transcendants, qui disent, Seigneur, écoute, qu'est-ce que je pourrais imaginer, hein? Je ne sais pas, mais si tu déchires les cieux, si tu envoies là quelque chose sur la terre, et là je vais m'effondrer, et je croirai en toi, je dirai que tu es Dieu à ce moment-là. Ben, quelquefois, c'est dans les choses les plus simples et les plus intimes, les plus secrètes et les plus profondes de notre cœur, que le Seigneur va nous convaincre. Ouais. Pas la peine de chercher midi à 14h, hein, le Seigneur le sait. Il sait ce que nous avons besoin. Et si aujourd'hui, si ce soir, si demain, si dans les jours qui viennent, le Seigneur nous prenait au mot, c'est formidable, hein? Alors n'ayez pas peur de lui. Mais il va nous convaincre. Et après vous direz, je sais que tu es le Fils de Dieu et que tu es le roi d'Israël. Que tu es mon sauveur, que tu es mon Seigneur. Parce que je t'ai dit, répond Jésus, que je t'ai vu sous le figuier, tu crois? Tu verras de plus grandes choses que celles-ci. Et il lui dit, en vérité, vous verrez désormais le ciel ouvert et les anges de Dieu monter et descendre au-dessus du Fils de l'homme. C'est exactement la réalisation de l'échelle de Jacob. Jacob l'avait vu? Des siècles et des siècles et des siècles auparavant, et voilà que cette réalisation, cette vision que Jacob a eue, s'est réalisé avec la venue de Jésus sur la terre, où les anges, où le Fils de l'homme montait et descendait, et tout ce qui était en haut, ça descendait sur la terre en bénédiction, en grâce, en pardon et en salut. C'est ça la vision de l'échelle de Jacob dans le livre de la Genèse. Et qu'est-ce que Jésus a fait pour convaincre Nathanaël et puis tous les autres, des millions et des millions d'autres à travers tous les siècles? C'est qu'il a ouvert les cieux. Quand il y a une guérison divine, c'est une bénédiction de Dieu. Quand il y a une conviction de péché et repentance, c'est un miracle de Dieu. Et puis tout le reste que je pourrais multiplier. Je vais terminer rapidement. Notre passé, notre présent, notre avenir est connu de Jésus. C'est l'histoire. Je le lis, mais je le commande pas, parce que si je suis reparti, là, vous allez pas finir, hein. Je vois qu'on me fait déjà des gros yeux et j'ai l'habitude, mais bon, je veux quand même obéir. Mais toujours est-il que, écoutez, je ne fais pas de commentaires, mais je le dis simplement, hein. Voilà. Dans Jean chapitre 21, écoutez, vous allez comprendre. Pierre s'étant retourné, vit venir après eux le disciple que Jésus aimait, celui qui, pendant le souper, s'était penché sur la poitrine de Jésus et avait dit, Seigneur, qui est celui-ci qui te livre? En le voyant, Pierre dit à Jésus, et à celui-ci, Seigneur, que lui arrivera-t-il? C'est l'histoire de Pierre et de Jean, vous savez? Alors je continue. Jésus lui dit, si je veux qu'il demeure jusqu'à ce que je vienne, que t'importe, toi, suis-moi. Là-dessus, le bruit courut parmi les frères que ce disciple, qui n'était autre que le disciple Jean, ne mourrait point. Cependant, Jésus n'avait pas dit à Pierre qu'il ne mourrait point, mais si je veux qu'il demeure jusqu'à ce que je vienne, que t'importe. C'était aussi une révélation, là, hein? Ouais. Une révélation qui n'était pas tout à fait complète, mais qui quelquefois eh bien, nous pique dans notre curiosité parce que nous voudrions voir les choses à l'avance. Quand il s'agit du salut, le Seigneur nous donnera la pleine et entière révélation. Mais de savoir ce qui va arriver aux autres, ben ça ne nous regarde pas. Si le Seigneur veut nous le révéler, et heureusement qu'il ne nous révèle pas tout, hein. S'il nous révélait que demain, on va peut-être avoir un accident d'avion, enfin, fort heureusement, j'ai pas pris de billet. Mais bon, toujours est-il que, enfin, ça peut arriver, hein, précipitamment. Mais bon, et puis toutes sortes de choses. Il y a des choses où il faut vivre par la foi, vous comprenez. Ne vous inquiétez de rien. Chaque jour suffit sa peine. C'est pas la peine d'en rajouter, hein. Mais l'histoire de Jean et de Pierre, c'est un peu ça, hein, quelque part. Et puis l'expression évangélique. Jésus connu en son esprit. Jésus connaissant la pensée des hommes, connaissant la nature de leurs actions, etc. C'est très fréquent dans l'évangile, on le trouve très très souvent, hein. Car selon Hébreux, chapitre 4 et verset 12, ça sera le dernier verset que je vais citer, et vous le savez, hein, ça c'est quelque chose qui doit nous interpeller aussi. Alors, verset 4, chapitre 4 et verset 12, il nous est dit ceci, « Nulle créature n'est cachée devant lui, devant Dieu, mais tout est à nu et à découvert aux yeux de celui à qui nous devons rendre compte. » Moi, quand je lis ce texte, rendre compte n'est pas forcément une sanction, une condamnation. Peut-être, certainement pour d'autres, pour certains, incrédules, ça c'est sûr. Et pour les chrétiens, tout est à nu à découvert. Et il n'y a rien d'autre, finalement. C'est très bien comme ça. Alors, qui pourrait se dissimuler? Qui pourrait se soustraire ou pourrait soustraire quoi que ce soit à la perspicacité de notre Créateur? Personne. On l'a lu dans le psaume 139. Hein. Où irai-je loin de ta face, Seigneur? Je monte aux cieux, tu y es. Je descends sur la terre et dans les enfers, tu y es aussi. Enfin, pas dans l'enfer, mais dans les parties inférieures de la terre, tu y es. Donc, vous avez bien compris ce soir, l'histoire de Nathanaël, ça nous montre une chose. L'histoire de cette femme, venez voir un homme qui m'a dit tout ce que j'ai fait. Quand nous prêchons l'évangile, c'est ce que nous disons à chaque fois. Venez voir un homme. Venez écouter un homme. Venez écouter sa parole. Parce que les mots qu'il a à nous dire sont des mots de grâce, de bénédiction, de pardon et de salut. Alors venez voir. Et quand vous aurez fait comme Nathanaël, qui reçoit l'injonction de Philippe, viens et vois, moi j'ajouterai ceci, viens, vois et crois. Alors que Dieu nous bénisse. On va prier quelques instants si vous voulez bien. Seigneur, nous voulons te bénir et te remercier. Pour ta bonté et ta fidélité, il y a de merveilleuses et de belles histoires dans la Bible. Mais ce ne sont pas des histoires-histoires, c'est l'histoire, l'histoire vraie. L'histoire que chaque homme peut rencontrer à un moment ou à un autre, dans son chemin, sur son sentier, où là, véritablement, Seigneur, nous ne sommes pas sans Dieu, mais Dieu est partout. Il est au ciel, il est sur la terre, Il est un Dieu de près, il est un Dieu de loin, et il n'oublie aucune de ses créatures. Nous sommes certainement des milliards sur la terre, certainement. Mais nous croyons, Seigneur, que qui pourrait comprendre, en effet, ta science, qui pourrait comprendre la connaissance que tu as, qui pourrait savoir, en effet, tout ce que tu sais. Alors, Seigneur, c'est quelque chose qui nous dépasse. Et parce que ça nous dépasse, ça nous rend humbles, ça nous rend modestes. Ça nous amène, Seigneur, eh bien, tout simplement à considérer que nous sommes petits dans cet univers. Mais nous ne sommes pas pour autant oubliés. Nous ne sommes pas pour autant rejetés. Alors, Seigneur, elle est belle cette rencontre entre ce grand Dieu et cette petite créature que nous sommes. Parce qu'en effet, Seigneur, petits et grands, tu as la même compassion. Et nous savons que ça a été résumé à travers un don extraordinaire, un don magnifique, un don, Seigneur, qui n'a pas de prix, c'est d'avoir donné Jésus. C'est tout simplement parce que tu nous as aimés dans notre monde, dans ce monde, que tu as donné ton Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. La réponse, elle est là. C'est qu'en effet, Seigneur, tu as une réponse à chacun. Et nous te bénissons et nous te remercions. Seigneur, visite-nous ce soir. Et nous voulons croire, en effet, que notre Dieu est là, que notre Dieu est présent, que notre Dieu, en effet, sait tout de notre vie. Mais ce savoir, ce n'est pas un savoir de condamnation, comme, en effet, un jugement, un verdict de tribunal, mais c'est avant tout une invitation, Seigneur, à venir à toi, parce que tu sais tout, et parce que tu sais tout, Seigneur, eh bien, nous te faisons confiance. Et heureusement, Seigneur, merci Jésus, merci notre Dieu. Amen.
Pour écouter d'autres messages audio ou vidéo, retrouvez-nous sur www.add-saint-nazaire.fr.